déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre aujourd'hui, nous vous présentons la première de deux émissions d'enseignement animées par le Père Pascal Hyde, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, théologien, médecin et auteur. L'entretien s'intitule « Comment pries-tu? »
Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Qu'est-ce qui parle là? C'est incollable, hein, c'est Thérèse. Mais vous savez où est-ce qu'elle... Ce passage-là est cité, c'est très intéressant. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous voyez, hein, ce gros livre noir qui se trouve sur une étagère chez vous avec un peu de poussière au-dessus. Dans le catéchisme de l'Église catholique, la quatrième partie, la dernière partie, est consacrée à la prière. Eh bien, le premier mot est donné à Thérèse, et c'est cette définition. À quel point donc Thérèse est un exemple de prière. Deuxième remarque, tout à l'heure on va entendre dans l'évangile de la Transfiguration Pierre qui va dire une parole extraordinaire à Jésus. Il nous est bon d'être ici. Ou parfois c'est traduit, il nous est heureux d'être ici. Vous n'imaginez pas, frères et sœurs, combien cette parole a dû réchauffer le cœur de Jésus. Il nous est bon. D'ailleurs, je dis ça aux consacrés, notamment des Béatitudes, vous savez que lorsque Jean-Paul II a réfléchi à la vie consacrée, il s'est dit quel est le passage de l'Écriture qui nous dit le mieux l'union de la personne consacrée à Jésus. Alors on a mis plein d'hypothèses, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça, et Jean-Paul II a dit, et il le commande d'ailleurs longuement, le plus beau passage, c'est finalement la parole de Pierre à Jésus sur le mont Tabor, sur le mont de la Transfiguration. Qu'il nous est bon d'être ici. Dressons trois tentes. D'ailleurs, comme un jour, un de mes amis posait la question à un professeur, quand il était au séminaire, il disait, mais attendons, ils sont six, hein, puisqu'il y a Jésus, Élie, Moïse, et puis en plus Pierre, Jacques et Jean. Alors, comment ça se fait? Réponse du professeur, c'était probablement des tentes à deux places. Je n'en sais rien. Et ça, il nous est bon d'être ici, c'est la parole même de la prière. Vous voyez, tout à l'heure, nous allons être sur la montagne sainte, sur le mont Tabor, tous. Ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans, ça se passe aujourd'hui, c'est ça la liturgie. Tous, nous allons être sur la montagne. De même que la session des Béatitudes, nous sommes sur la montagne. Ne vous inquiétez pas, vous redescendrez dans la plaine, et plutôt qu'on a envie d'ailleurs. Donc la prière, c'est cette parole. Jésus, mais quel plaisir j'ai à être avec toi. C'est d'abord ça la prière. Et troisième remarque introductive, Daniel Ange, que vous connaissez, j'imagine, se lève un certain 6 août 1978, il se lève et dans son esprit, de manière tenace, il a l'impression que son père est mort. Mais cette pensée est tellement tenace qu'il se dit « mais c'est pas possible, il était en ermitage ». Il redescend au village et il téléphone à sa famille. « Allô maman, comment vas-tu? Ça va bien ?»« Et papa, comment vas-tu? Ben, il va bien. » Il dit « mais comment ça se fait que j'ai cette idée que mon père est mort ?» Et en passant le village, il tombe sur le kiosque à journaux et il voit, sur l'un des journaux, « Le pape Paul VI est mort ». Le pape, d'ailleurs le mot pape, c'est papa, hein, est mort. Et vous savez que Daniel Ange, vous ne savez pas, hein, que Daniel Ange a écrit deux beaux livres sur le pape Paul VI, un des très grands papes, l'un de ceux à qui on doit notamment cette reconnaissance si belle du renouveau, le renouveau, une chance pour l'Église. Daniel Ange en avait un tel amour que c'était pour lui comme son papa. Sainte Catherine de Sienne, elle disait du pape « le doux Christ sur la terre ». Et en effet, quel bonheur nous avons d'avoir, certes actuellement un saint pape, mais depuis 200 ans, qu'est-ce que nous avons de saint pape qui nous indique la voie de la prière? Le cardinal Lustiger disait récemment, en comité restreint dont vous ne le répéterez pas, qu'il avait suivi Jean-Paul II dans son voyage en Autriche. Et il témoignait qu'il était extrêmement impressionné par le fait que Jean-Paul II était constamment en train de prier. Il allait faire une conférence, moi il allait parler, et aussitôt qu'il avait terminé, il revient en lui-même et il plonge dans la prière. Et le cardinal Lustiger disait « Il est impossible, si on a le cœur ouvert, de ne pas être profondément touché par le témoignage même de Jean-Paul II. » Quel bonheur nous avons d'avoir un pape si abîmé, mais abîmé au sens de l'abîme appelle l'abîme, si abîmé en Dieu. D'ailleurs, c'est le témoignage que donnent toutes les personnes qui sont proches de Dieu. Un ami me rapportait qu'il avait passé 2 jours avec Mère Teresa et il était aussi extrêmement impressionné. Mère Teresa, dès qu'elle a un instant de libre, se plonge dans la prière, se plonge en présence de Dieu. Elle a avec elle un petit livre de prière et elle prenait le TGV, et bien dès qu'elle avait un instant, elle plonge dans son petit livre de prière où elle dit son chapelet. Sa vie est union à Dieu. Et je peux vous dire que lorsqu'elle a une démarche à faire très précise pour demander une maison, elle est vraiment présente et elle a l'espèce de courage de l'Évangile qui fait qu'elle va jusqu'au bout de ce qu'elle sent que Dieu lui demande. Alors, parlons donc de la prière, encore qu'il faudrait beaucoup mieux en vivre qu'en parler. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'épingler, il y aurait 2 parties, d'épingler, comment dirais-je, des obstacles à la prière, de voir un petit peu ce qui peut nous empêcher de prier ou de prier comme Dieu veut que nous prions. Alors, c'est un petit peu d'expérience, hein, que je vais vous parler en fonction de ce que j'ai pu voir. Je vais épingler, je sais pas moi, 8 à 10 d'obstacles à la prière. Vous pourriez en rajouter d'autres. Peut-être que vous vous retrouverez dans l'un ou l'autre, dans plusieurs. Si c'est dans aucun, bah, tant mieux, c'est bon signe. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. D'abord, premier obstacle à la prière, la personne très exigeante. Il y a des personnes qui ne sont jamais contentes d'elles-mêmes, donc jamais contentes des autres, donc jamais contentes de leur prière. Et elles se jugent. Vous savez, hein, ces mamans qui veulent être de parfaites mamans, de parfaites épouses, si elles travaillent, de parfaites personnes qui travaillent et qui sont parfaitement stressées. Et ça vaut aussi pour la prière. Alors, comme elles sont très exigeantes, ces personnes, d'ailleurs ces hommes comme ces femmes, au bout d'un moment, elles se découragent de prier, avec l'impression qu'elles n'arriveront jamais à coller à ce que Dieu leur demande. Vous savez qu'il y a des psychologues qui ont calculé que dans nos pensées intérieures, notre cinéma intérieur, il y a 70% de jugement. On juge les autres, on se juge soi-même. Bien évidemment, je ne parle pas pour vous. ça va de soi. Alors ça, c'est un premier obstacle. Arrêtons de juger notre prière, de nous dire que Dieu n'accepte pas, n'accueille pas notre prière, qu'elle n'a pas de valeur. Ce qui est déjà le plus important, c'est que nous donnions du temps. Ce qui est le plus précieux pour l'homme moderne, c'est son temps. Donc, déjà, les personnes qui placent la barre très haut. Donc ça, déjà, c'est un premier obstacle. Ça va jusqu'au scrupule. C'est ce que c'est qu'un scrupule. Un scrupule, le mot scrupule, ça veut dire petit caillou. Un petit caillou qu'on a dans la chaussure et qui fait du mal aux pieds. Ça nous fait boiter. Il y a un deuxième obstacle à la prière. Comme je vous dis, je ne sais pas dans l'ordre. Il y a ce que j'appelle, moi, le Saint-Bernard. C'est celui qui aide toujours les autres et qui donc va passer son temps dans la prière à prier pour les autres, à supplier. Et qui, bien évidemment, s'oublie complètement lui-même. Mais vous savez, tôt ou tard, cette personne, ce n'est pas rare, eh bien, elle va nourrir des rancœurs ou des amertumes. Elle s'est tellement oubliée pour les autres que finalement, elle a vraiment l'impression que tout le monde l'a oubliée. Et elle va vous envoyer la facture au bout de 15 ans ou 20 ans en vous disant « Finalement, je me suis toujours donné, t'as jamais pensé à moi. » Et ça, pareil par rapport au Seigneur. Seigneur, depuis le temps que je te prie et tu ne m'écoutes jamais. Je suis toujours célibataire à 40 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de travail et tu ne penses vraiment pas à moi. Alors ça, c'est quand elle va prier pour elle, ça. Mais des personnes qui prient et qui, en effet, donc je reviens au premier cas, qui prient, mais qui sont tellement oublieuses que là, elles vont, au bout d'un moment, se révolter. Il y a une troisième obstacle, une troisième manière fausse de se comporter par rapport à la prière. C'est au contraire la personne qui s'écoute trop ou qui écoute trop son état intérieur. Et il y a des personnes, en effet, quand leur prière, c'est quasiment une espèce de, comment dirais-je, de mur des lamentations. On va se plaindre, on va geindre, ou bien on va faire part au Seigneur de son état affectif, finalement de son état hormonal. Ça va pas. Oh, ça va plutôt pas d'ailleurs. Et donc, on va en rester au sentiment, à notre affectivité. Et surtout, on va mesurer la présence de Dieu à ce qu'on ressent, ce qui est redoutable. D'ailleurs, là-dessus, soyons très clairs. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, au début, quand je me donne à quelqu'un, je me donne sensiblement, c'est-à-dire qu'il y a des grâces sensibles. Et après un certain temps, toujours, après un certain temps, je retire les grâces sensibles, mais non pas ma présence. C'est très intéressant ce que dit Sainte Catherine de Sienne. C'est une loi spirituelle absolument constante. Au début, si vous voulez, il y a des grands frissons qui nous parcourent l'échine dorsale. On dit « chic, le bon Dieu est là ». Et puis, après quelque temps, notre Dieu retire cette impression sensible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne voudrait pas qu'on s'attache aux consolations. Ça, c'est très important. C'est le père d'Elbé d'en croire à l'amour qui a cette belle phrase. Il dit « Si le chemin qui mène à Dieu est plein de roses, il y a des chances qu'on s'attache davantage aux roses qu'à Dieu. » Alors, ça ne veut pas dire que le bon Dieu nous met des épines, on s'entend bien. Mais, et ça, je vais y revenir tout à l'heure, c'est très important, notre Seigneur dans la prière, veut purifier notre attachement à lui. Ça, c'est capital. Et donc, qu'on arrête d'écouter ces hauts et ces bas, ces montagnes russes affectives, pour enfin descendre dans le cœur, ce qui est la foi. Vous savez, c'est le syndrome classique, hein, dès que quelqu'un nous a sorti une parole dure, c'est vraiment un sport national chez les Français, hein, dès qu'on a entendu une parole dure, premier réflexe, on décroche le téléphone. Et on va se plaindre. On va se plaindre du voisin, du parent, du patron. Alors que lorsqu'on a eu une parole dure, un choc, le vrai réflexe du chrétien, ça devrait être de descendre en lui-même et de vivre face à Dieu cet événement douloureux. C'est ça. Et du coup, ça permet de relativiser et d'arrêter d'accuser l'autre pour voir quelle est la part éventuelle que nous avons aussi dans la réaction. Quatrième type d'obstacle à la prière, ce que j'appellerais volontiers le gagneur, hein, le battant. C'est celui, le chef d'entreprise, ou bien même pas forcément le chef d'entreprise, hein, ça peut être aussi la mère de famille, celui qui travaille beaucoup, qui est très actif. On dit même aujourd'hui les drogués du travail ou les drogués de l'activité. Hein, le travail peut être une véritable activité. Alors vous pouvez trouver un peu curieux que je parle de ce cadre-là, puisque vous donnez 5 jours de votre vie, et pas seulement de votre vie, de vos vacances, en venant ici. C'est vrai, et c'est déjà bien, hein. Oui, mais en revenant, en descendant dans la plaine. Combien de fois on a entendu, hein, « mon travail, c'est ma prière ». Et je vais vous faire un aveu, ça peut être une tentation pour les prêtres. Comme en effet, on travaille pour Dieu, comme a priori, ce qu'on fait, c'est orienté vers lui et on parle de Dieu en plus, hein. On pourrait être tenté, en effet, de ne pas prier ou de dire « mon travail, c'est ma prière ». Et donc, ça c'est une tentation, en effet, c'est de dire ben, « finalement, il y a, c'est merveilleux, il y a les consacrés des béatitudes qui prient et moi je travaille hein, ». C'est une bonne répartition des tâches. D'ailleurs, c'est vrai que saint Dominique, quand il a envoyé ses frères dominicains pour prêcher, il s'est dit « oh là là, sécurité, je mets des contemplatifs pour prier pour eux ». Mais il n'empêche quand même qu'il demande à ses frères dominicains hein, de vraiment prier. Et donc, même quand vous dites, vous savez, les personnes qui me disent « Oh mon Père, moi je prie toujours », alors moi, mon premier réflexe, c'est de m'agenouiller pour leur embrasser les pieds. Parce que forcément, s'ils prient toujours, j'ai affaire à un saint. Malheureusement, je suis parfois déçu. Parce que pour dire qu'on prie toujours, il faut vraiment du temps. Et bien souvent, c'est un peu une illusion. On pense un petit peu à Dieu, mais pour vraiment arriver à prier constamment, prier sans cesse, oublier de penser à Jésus 3 minutes comme Thérèse, qu'est-ce qu'il faut avoir pris comme habitude, mais bon, au bon sens du terme de prière, qu'est-ce qu'il faut avoir appris à s'arracher à tout ce qui nous tente pour se donner à Dieu dans une foi pure? C'est pas du jour au lendemain. C'est un long exercice spirituel, comme dirait saint Ignace. Et quand on me dit qu'on pense toujours à Dieu, je dis, mais est-ce que vous êtes capable de prendre de ce temps si précieux pour le donner à Dieu? Vous savez, certes, on peut toujours penser à Dieu, mais est-ce qu'on peut vraiment lui donner du temps? Ça fait penser à ces personnes qui travaillent à leur bureau et qui disent à leur femme, par exemple, mais ça vaudrait pareil pour les femmes par rapport à leur mari, « Oh, tu sais, chérie, je pense toujours à toi, la preuve, c'est que j'ai une photo de toi sur mon bureau. » « Ah, ben, je suis très touché, » répond le conjoint. « Mais je serais quand même content que tu rentres non pas à 9h du soir, mais un peu plus tôt quand même, pour te voir, donc pour que tu me montres que vraiment, tu m'aimes. » Et en effet, souvent, c'est un petit peu comme ça. On a une photo de Dieu dans notre bureau, mais franchement, quitter notre laboratoire pour aller dans notre oratoire, ça... Donc ça, c'est encore un quatrième obstacle. Et puis, vous savez, j'ai remarqué une chose, hein, chez ces personnes qui sont très battantes, très gagnantes dans leur vie professionnelle, lorsque vraiment elles se convertissent à Jésus, il y a un risque qu'elles mettent leur même volonté de réussite dans la prière. Alors tant mieux, parce que ça fait des gens très très dynamiques. Et en même temps, il y a le risque que, comme dans leur vie professionnelle, elles ne supportent pas l'échec. Or, justement, ce qui nous fait grandir, c'est de voir que même lorsque nous sommes à terre, Dieu nous aime toujours autant. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est le grand message de Thérèse. C'est l'amour inconditionnel de Dieu que, à mes yeux, je me semble bien ou qu'à mes yeux, je me déçoive. Or, ça, c'est le grand secret de la vie spirituelle. Arriver à se décevoir paisiblement. Alors, j'ai plus en tête précisément, mais vous allez m'aider, la parole extraordinaire de Thérèse, lorsqu'une de ses sœurs lui écrit, et Thérèse lui écrit un petit mot en lui disant, c'est à peu près ça, le jour où tu pourras accepter, alors les mots sont pesés, où tu pourras accepter paisiblement l'épreuve de te déplaire à toi-même. Extraordinaire ça. Accepter paisiblement l'épreuve, parce que c'est une véritable épreuve, de te déplaire à toi-même. Trois lignes plus loin, alors tu auras vraiment rencontré Jésus. Ça, le gagnant, celui qui ne se supporte pas en train de tomber et de retomber, celui qui chute dans la même faute sordide depuis des années et des années, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre cela et d'entendre aussi l'avant-dernière parole du troisième manuscrit de Thérèse, quand bien même j'aurais commis toutes les fautes qui se peuvent commettre, etc. Alors, ça c'est le quatrième obstacle. Cinquième obstacle. Ah, c'est important. Moi, ce que j'appelle le zappeur. C'est quoi le zappeur? C'est un petit peu le jouisseur qui aime bien avoir une vie remplie, variée, pleine de plaisir. Ben, celui-là, il va chercher son aise en priant. Oh, ça peut être subtil, vous savez. On peut être très fidèle à la prière et en même temps, on va lire des bouquins qui nous intéressent. On va prendre plein de lectures spirituelles. Finalement, ce qu'on va chercher, c'est se faire plaisir et non pas faire plaisir à Jésus. Ce mot si fréquent chez Sainte Thérèse, faire plaisir à Jésus. Or, sachez que la prière, c'est pas toujours rigolo. Désolé, je crois que c'est pas un scoop. Mais de fait, quand Thérèse dit que ses oraisons toute sa vie ont été arides, eh bien, ça nous montre qu'on va prier non pas pour soi, mais pour Jésus. Et là encore, ne mesurons pas notre prière à ce qu'on ressent. Et donc, vous dites, il y a la tentation de prier en prenant ses aises. J'allais dire, y compris physiquement. Quelle est notre attitude dans la prière? J'aime bien un passage d'un grand saint peu connu qui s'appelle Saint Thomas More, qui a écrit juste avant de mourir un petit livre qui s'appelle « La tristesse du Christ ». Dans lequel il dit « Regardons-nous dans notre attitude quand nous prions. » Il y a des personnes qui se trifouillent les cheveux, d'autres qui se trifouillent le nez, d'autres qui font des mains. Attendez, il dit, mais imaginez qu'on vous introduise auprès du président de la République, là, précisément auprès du roi. Est-ce que vous voyez comme ça en train de vous gratouiller l'oreille? Eh bien, pourquoi vous tolérez-vous une telle attitude par rapport à Jésus dans la prière? Rappelez-vous, Edith Stein, avant sa conversion, elle a été extrêmement édifiée lorsqu'elle est rentrée dans une église et qu'elle a vu, précisément la cathédrale de Munich, elle rentrait avec son amie, et elle voit une simple femme, une pauvre femme, dit-elle, qui était à genoux en train de prier. Ce simple témoignage l'a profondément émue. Donc là encore, si nous cherchons nos aises dans la prière, est-ce qu'en effet c'est vraiment Dieu que nous cherchons? Je cherche le Seigneur, c'est vraiment ce qui caractérise le chrétien. Et vous savez, ça va même jusqu'à une espèce de complaisance dans l'endormissement. On connaît la parole du psaume. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Voire on sait que Thérèse a eu quelques endormissements pendant son temps de prière, mais c'était vraiment à son corps défendant et elle s'en voulait. Donc il y a une manière de chercher son plaisir, simplement en disant, finalement, allez, dodo. Il y a encore un autre obstacle à la prière, c'est celui qui caractérise ce que j'appelle le cérébral. Celui qui, finalement, va pas seulement lire, mais chercher des idées intéressantes. « Ah, ça c'est vraiment intéressant, » dit-il. Et d'ailleurs, avec un système de refroidissement des effusions mystiques très très au point. Hein, surtout ne pas laisser toucher son cœur, mais par contre que la tête elle-même soit extrêmement éclairée. Vous savez que le pèlerinage le plus long de notre vie, c'est de passer de la tête au cœur, hein, et qu'il y ait toujours à reprendre. Et je ne parle pas seulement pour les intellectuels. Il n'y a pas que les intellectuels qui sont cérébraux. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément cérébraux. Hein. Quand vous voyez un Jean-Paul II, quel grand intellectuel, il est vraiment un homme du cœur. Hein. Mais tous ceux qui peuvent être tentés par des idées, alors qu'il s'agit de rejoindre une personne. Vous ne comprenez pas l'écriture. Ben dites-vous que personne ne la comprend totalement. Et si vous ne la comprenez pas, c'est bon signe. Ça signifie que ce n'est pas un homme qui l'a écrit, mais c'est Dieu. Dieu qui, a priori, est plus grand que notre intelligence. Et puis, si vous ne comprenez pas, rappelez-vous ce qu'on dit à la messe, hein, « Le Seigneur soit avec vous. » Et vous répondez « Avec ton esprit, hein, ou avec votre esprit. » Est-ce que vous mesurez ce que vous dites? En général, c'est une parole qui sert à vous faire lever. Malheureusement. Alors que cette parole-là, elle est très profonde. Tout à l'heure, quand on va vous le dire, juste avant l'Évangile, c'est pour que, avec le Seigneur qui sera avec vous, vous entendiez l'Évangile, c'est-à-dire que ce soit le même esprit qui vous inspire ce que vous allez entendre, que celui qui a inspiré l'Écriture. C'est pour ça que c'est très important quand vous dites « Et avec votre esprit, moi je suis frappé d'une chose, et régulièrement j'attrape mes paroissiens de la Trinité. » On dit « Dites donc, vous me dites « Et avec votre esprit », et quand vous le dites, vous regardez le plus souvent à droite, à gauche ou la pointe de vos souliers. Je suis très vexé. Hein ? C'est à moi que vous le dites, pour qu'en effet ce soit avec l'Esprit Saint que... » Donc. La parole de Dieu, bien évidemment qu'elle est plus grande que tout, et bien évidemment que quand vous butez sur une parole, les rabbins aiment bien dire que c'est un petit peu comme un mur, vous voyez, le mur est lisse et brusquement vous tombez sur une aspérité, elle vous arrête. Eh bien tant mieux, l'aspérité dans la parole de Dieu, que ce soit pour vous l'invitation de garder cette parole dans votre cœur. Si vous ne la comprenez pas, eh bien, est-ce que ce ne serait justement pas l'occasion pour Dieu de vous dire quelque chose qui dépasse ce que vous voulez concevoir et qui risque de mettre Dieu dans une petite bouteille? Alors, un autre obstacle à la prière, le conformisme. Oh, ça aussi, j'en rencontre. Tout ce que je vous dis, c'est des... j'ai des visages devant les yeux. Hein. Le conformiste... C'est celui qui va prier et qui se dit « Bon, c'est bien, j'ai pris une heure de prière, j'ai fait ce que je dois. Le bon Dieu doit être content de moi. Si, si. Eh bien, maintenant, passons à autre chose. » Et donc, il y a ce risque légaliste qui fait que on va transformer la prière en un devoir. Alors, bien sûr qu'il y a une obligation, hein. Le Seigneur nous demande de prier, c'est un commandement du Seigneur, mais là, qui est dévitalisé. On y perd l'amour, et je vous dis, c'est que on va quitter la prière en passant à autre chose, on va saucissonner sa vie. Alors que saint François de Sales demande que, lorsqu'on quitte sa prière, on prenne un petit temps pour la recueillir, comme un bouquet. Vous avez dit, c'est des bouquets absolument splendides. Et dans ce bouquet, on va, il dit-il, on va faire comme un bouquet spirituel où on va garder le cœur de ce que le Seigneur nous a donné et on va le garder pour la journée. Et on va bien veiller à ne pas trop rapidement éventer ce qu'on a reçu, un petit peu comme un parfum dont on soulèverait trop rapidement le couvercle et qui se répandrait partout. Vous savez que Monsieur Martin, quand il revenait de la messe, très souvent il était silencieux. Quand il revenait jusqu'au Buissonnet, alors ça intriguait ses filles de le voir ainsi silencieux. Et en effet, il méditait après la communion. Et lorsque ses filles lui posaient la question, il disait très simplement « Je continue de m'entretenir avec notre Seigneur après la messe. » Je vais vous faire un aveu. Si j'étais pape, on peut toujours rêver, il y a une chose que je transformerais dans la messe. C'est la post-communion. Vous savez, la prière qu'il y a après la communion. C'est beaucoup trop rapide. Je trouve qu'on devrait laisser un grand temps et qu'il y ait des oraisons pour permettre de beaucoup plus accueillir. Vous imaginez, ce qui se passe après est plus important que ce qui se passe avant. Or, avant, ça dure très longtemps. Pour garder cette présence, pour justement ne pas dire « j'ai prié, je passe à autre chose, je passe à mon gigot ou je passe à mon dossier », etc., etc. Il y aurait encore d'autres obstacles à la prière.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le père Pascal Hyde, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, théologien, médecin et auteur.